On rembobine avec Joris sur RCN.
Et bonsoir à tous et bienvenue dans On rembobine, votre émission musicale du mercredi soir à 21h comme toutes les semaines. Et oui, émission dans laquelle on rembobine simplement des cassettes. Alors, comment ça se passe? Eh bah, ben, Pablo, qui est toujours mon acolyte pour toutes les émissions, va vous l'expliquer. Déjà, comment ça va?
Ben, ça va très très bien. Et toi, Joris?
Très très bien. Alors, c'est quoi On rembobine, Pablo?
Bah c'est très simple, en fait on a récupéré une certaine quantité de cassettes, 180 pour être exact.
C'est pas mal.
Et en fait tu as eu la merveilleuse idée de te dire mais pourquoi ne pas les rembobiner en émission et de tout simplement explorer un peu tous les goûts de la personne qui avait cette collection, qui nous
c'est
les
ça.
A généreusement offertes.
Oui.
Et
un très bel héritage.
Un très bel héritage, effectivement.
Un bel héritage musical. Et dans cette émission, comme on fait depuis un certain temps, on va faire une petite compilation. On l'avait fait pour la première émission, on l'avait fait déjà il y a 3 semaines.
Mm-hmm.
Et donc, à chaque fois, on fait deux artistes et une compilation. Et donc là, on va faire une nouvelle petite compilation, Pablo.
Bah oui, hein, il en faut de temps en temps. Et puis, on vous a choisi une petite, une belle poignée de musique
morceaux
là, cette
qualité,
fois-ci.
Hein. 4 ouais. morceaux pour toi, 4 pour moi, comme d'habitude. Et je te propose qu'en fait, tout simplement, je commence.
Et bah, je t'écoute.
Et tu fermeras
okay.
l'émission.
D'accord.
Beauté.
Soit.
Alors, on va commencer avec une chanson d'un groupe, bien sûr, un groupe dont on va devoir faire une émission dessus, mais comme presque tous les groupes.
Oui.
Mais on va parler ici de Queen, bien sûr. Queen formé en 70, on ne les présente plus, mais je vais quand même le faire. Freddie Mercury au chant, au piano, il fait plein de choses, ce mec. Brian May à la guitare, Roger Taylor à la batterie et John Deacon à la basse. C'est quand même 300 millions d'albums vendus jusqu'à la mort, bien sûr, de Freddie Mercury en 91, mais tout le monde connaît cette histoire. Et on va s'attaquer à un petit morceau bien sympathique qui est sorti en 78 en single. Et c'est une chanson qui a été écrite par Brian May,
okay.
et pas Freddie ou d'autres, même
ouais.
si en fait tous les membres de Queen ont déjà composé une musique.
Ok.
John
simple.
Deacon, bah, c'est lui qui a écrit Another One Bite the Dust, bien sûr.
Ok.
Bon, Freddie, on va pas faire la liste. Et Brian May, il en a écrit d'autres, mais bien sûr, on va s'intéresser à celle-là qui est sortie sur leur 7e album, Jazz.
Ok.
C'est le nom de l'album. Et elle s'appelle Fat Bottom Girl. Donc je vous laisse faire la traduction. Hein. Fille à grosse fesse, on peut le dire. Au gros derrière.
Voilà. Plus, voilà.
Et c'est une chanson donc, qui a été vraiment écrite délibérément humoristique et avec un ton sexuel à fond. Et qui est assez ironique à l'époque parce que connaissant l'ambiguïté de la sexualité de Freddie Mercury,
de Freddy, ouais.
c'est plutôt marrant de lui faire chanter cette chanson. Et du coup, je pense que Brian May est
un
petit coquin.
De...
Mais en tout cas, on va écouter ce morceau du bon gros rock avec de la bonne guitare de Brian May, la voix incroyable de Freddie Mercury
mm-hmm.
que maintenant tout le monde connaît. On va pouvoir écouter ce petit morceau, Pablo.
Et bah, c'est parti, on rembobine.
Oh, you're gonna take me home tonight.
Take me home tonight. Oh, down the
Et oui, Queen, Fat Bottom Girl, sorti en 78 sur leur 7e album. Très très bon morceau. Est-ce que tu connaissais mon Pablo ?
Et bah, pas celle-ci en particulier, mais ouais. Bah, c'est du Queen, c'est un beau moment de rock'n'roll. Hein.
Bien rock, morceau bien lourd. Ça fait très aussi chanson qui peut être chantée dans un stade,
grave.
Comme plein d'autres chansons. We Will Rock
grave,
You,
grave, grave,
We
grave.
Are the Champions, etc. Mm-hmm. Que des très bons morceaux, et il faudra forcément faire une émission
ouais,
dessus.
Carrément.
Et bah, Pablo.
Et ben on peut peut-être passer à la suivante.
Ouais,
carrément.
Avec plaisir.
La musique que j'avais envie de vous faire écouter, c'est Moonlight Shadow de Mike Oldfield. Donc c'est une chanson qui a été écrite, composée et interprétée par le musicien britannique. Elle est sortie en single en 1983 et dans l'album Crisis ensuite. La chanson, elle a connu un succès commercial international, notamment en Europe, où elle s'est classée en tête des ventes dans plusieurs pays. Et elle a marqué le point culminant de la carrière de Mike. Les paroles feraient référence au film Houdini, le grand magicien, ou à la mort de John Lennon.
Ah oui,
ouais.
Carrément.
Et je vous propose qu'on l'écoute tout de suite.
Avec plaisir, on rembobine.
I'm
Et oui, un très joli morceau que vous avez sans doute tous déjà entendu, qui a été repris maintes et maintes fois, même aujourd'hui, encore ce matin dans la matinale, j'ai entendu.
Ah ouais?
Ouais, il est passé. Donc voilà, les paroles sont interprétées par la chanteuse écossaise Maggie Riley.
Ouais, je me disais bien que c'était pas Mike.
Non, c'est pas lui. C'est une collaboratrice justement du musicien depuis 1980, okay. D'où le fait qu'elle interprète les paroles ici. Et donc pour présenter un peu plus Michael Field, c'est un musicien multi-instrumentiste et auteur-compositeur, surtout connu pour son premier album studio, Tubular Bells,
okay.
Qui était sorti en 1973, mm-hmm. dont il a commencé à écrire les premières bribes à 17 ans. Donc c'est plutôt jeune, ça va. Et pour la petite anecdote, il a enregistré des maquettes avec un magnétophone Bang et Olufsen, ouais. qui lui avait été prêté par Kevin Ayers, c'est un producteur britannique.
Okay.
Il bricolait sur l'appareil de telle sorte à ce qu'il arrive à réaliser des overdubs tout seul. Uh-huh. Donc ça lui permettait d'enregistrer plusieurs pistes et superposer le son de sa Telecaster, d'une basse Fender Precision, d'un orgue Farfisa et d'un xylophone.
Sympa.
Donc très créatif,
ouais, et très cool.
Et bah franchement, c'était
très bon morceau.
C'était
hein.
prometteur, puisque du coup en 72, il a rencontré Richard Branson, un jeune entrepreneur qui monte un studio à ce moment-là, c'est The Manor. Okay. Et ce monsieur est en train de lui trouver une maison de disques pour produire son album, en vain. Et au final, il a décidé de créer son propre label, ce monsieur donc. Et il a proposé à Mike de figurer parmi les premiers artistes du label qui s'appellera Virgin, avec lequel du coup il continuera. Ouais. Il finira par avoir des petits litiges d'ailleurs, parce qu'il a été signé sur 10 albums.
Aïe, aïe, aïe.
Et c'est beaucoup d'albums, donc il
oui.
y a eu des petites...
Faut les sortir les 10 albums.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais donc voilà, en gros... ce qu'il a fait, et donc ce son, c'est quand même le plus important de sa carrière, en tout cas celui qu'on notifie le plus. C'est tout pour ce son.
Mais on va pouvoir passer à un autre son.
Et oui, effectivement.
Et pas personne, hein. Parce que
c'est pas des
moines,
parce que pareil, et on va carrément faire une émission sur lui. On va parler de David Bowie.
Ah là là là.
Qu'on ne présente plus, mais encore une fois, on va la faire très, oui. très rapide.
Vas-y.
Auteur, interprète, compositeur, acteur et aussi peintre.
Ouais,
britannique.
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses, un grand artiste. Né en 1947 à Londres et malheureusement décédé en 2016 à New York. Il a sorti beaucoup de projets, il a amené un nouveau style, en vrai, avec son personnage.
C'est un univers.
C'est vraiment un univers, ouais, c'est
Ziggy.
Ça. Avec son personnage, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Avec son personnage très excentrique, très très coloré, très ouais. expressif, voilà, il a vraiment amené quelque chose à lui tout seul. Et on va écouter son Rebelle Rebelle, qui est tiré de son album Diamond Dogs, paru en 1974.
Incroyable, on rembobine.
Let's stay out.
your dress. Rebel, rebel, your face is a mess. Rebel, rebel, how could they know? Hot tramp, I love you so.
Avec Joris, on rembobine sur RCN.
Et oui, c'était donc Rebelle Rebelle de David Bowie, titre sur l'album donc Diamond Dogs, qui est un projet issu de plusieurs projets abandonnés, au premier rang duquel une adaptation musicale du roman 1984 de George Orwell.
Okay.
Faute d'en obtenir les droits, David Bowie ne conserve que l'idée d'un futur dystopique dominé par une dictature. Il développe l'univers de Hunger City, une ville post-apocalyptique hantée par les Diamond Dogs, un gang d'adolescents inspiré des garçons sauvages de William S. Burroughs. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà, en fait c'est tiré de là, et ses paroles abordent avec pessimisme des thèmes comme la violence, la drogue et la fascination pour le pouvoir. À sa sortie, Diamond Dogs se classe en tête des ventes au Royaume-Uni, où le single Rebel Rebel, donc lettre d'adieu au glam rock, connaît un gros succès. Il est considéré a posteriori comme l'une de ses œuvres les plus complexes et sombres, qui annonce par certains aspects les mouvements punk et gothique de la fin des années 70.
Ah, c'est trop bien.
Ouais.
En vrai, c'est intéressant et très bon concept aussi.
C'est un grand tournant, et en vrai, c'est le sujet de l'album que je connaissais pas vraiment. Au final, il est plutôt intéressant, quoi.
Ok. Voilà. En tout cas, très bon morceau.
Ouais.
Et ça
grave,
marche très bien avec ce type d'album.
Carrément.
On va pouvoir passer à une artiste,
Bush,
qui s'appelle de son vrai prénom Catherine, bien sûr. Artiste mondialement connue, bien sûr, née en 58. Elle est auteure, compositrice, chanteuse, musicienne, multi-instrumentiste. Elle est productrice britannique. Elle fait tout.
Wow.
C'est une figure de la musique populaire britannique. Vraiment, elle se distingue par son style très particulier et sa voix donc de soprane.
Okay,
parce qu'elle fait des voix très aiguës, et on va pouvoir l'entendre dans le morceau dont on va parler, et pas n'importe quel morceau, puisque elle a écrit ce morceau à l'âge de 19 ans.
Et ils aiment donc trop faire des trucs jeunes, là.
Vraiment. Et donc, à cet âge-là, quand elle a écrit, elle est devenue la première auteure-compositrice-interprète à atteindre le sommet des classements avec ce morceau qui a explosé. Et à cet âge-là, c'est incroyable d'exploser avec un tel morceau.
Ouais,
un morceau très très beau, mais on va en reparler juste avant. On va l'écouter, si ça te va.
Carrément. On rembobine.
Walking through the high-speed news.
Et oui, c'était Kate Bush avec le morceau, j'espère vous l'aurez reconnu, au titre imprononçable, Wuthering Heights. Donc traduit littéralement les hauts du hurlevent, et c'est une chanson du coup qui s'inspire de ce roman. Ce roman que du coup Kate Bush a lu à 18 ans, et en fait après avoir lu, elle s'en est inspirée pour écrire une petite chanson au piano à 18 ans. Et la chanson est sortie bien sûr en single du coup quand elle avait 19 ans. Et bien sûr, donc elle dit qu'elle a trouvé l'inspiration en seulement quelques heures. Donc vraiment, elle a écrit le morceau hyper rapidement dans la nuit en regardant la lune à travers la fenêtre de sa chambre. Voilà.
Ah ouais, ok, donc, d'accord. L'inspiration, elle est comme ça quoi.
Mais voix un peu flottante, tu vois, très très aiguë. Il y a un style dans la voix qui est très particulier.
J'arriverais même pas à définir le style de la musique en elle-même. C'est très spécial.
Ouais. Mais je pense que c'est pour ça qu'elle a très bien marché.
Ouais.
Et petite anecdote, le solo de guitare à la fin du morceau.
Que tu attendais impatiemment.
Et oui, c'est bien sûr joué par Ian Bernson, qui est membre du groupe Alan Parsons Project, dont on avait déjà parlé dans la compilation précédente avec le morceau High in the Sky. Donc voilà, un morceau très très sympa, Kate Bush, Wuthering Heights.
Tout lié avec nos anciennes compilations.
Non, mais il y a des liens partout. Et on va pouvoir passer à ton morceau, mon Pablo.
Et oui, on va parler de Lou Reed avec Walk on the Wild Side.
Oh là là.
Ce son figure sur le second album solo de Lou Reed, Transformer, qui était paru en 1972. C'est un album qui est produit par David Bowie et Mick Ronson. Fun fact, c'est
incroyable.
Assez stylé en vrai.
Donc en fait, on crée des liens.
Mais oui, c'est ça le truc de fou. Il y en a des partout, des liens. En fait, je pense que c'est vraiment un réseau. Ils sont tous ensemble au States à ce moment-là. C'est l'un des morceaux les plus célèbres de l'artiste en solo, qui avait commencé sa carrière en tant que guitariste, chanteur et principal auteur des chansons de Velvet Underground.
Ok.
Voilà. Le titre de cette chanson est inspiré de A Walk on the Wild Side, la rue chaude, de l'auteur américain Nelson Algren, qui avait écrit ce livre en 1956. Ses paroles décrivent la vie et la sexualité de plusieurs individus, faisant allusion aux grandes figures de la Factory d'Andy Warhol. C'était un atelier d'artistes qu'il y avait à New York, en fait, où il y avait plein d'artistes et notamment le Velvet Underground qui se produisait là-haut. Et j'ai plus le nom d'artiste exactement en tête, mais c'est à un grand atelier en fait, où plein de gens stylés s'amusent à faire de l'art. En fait.
Que des gens stylés.
Ouais, tout bonnement. Et je vous propose qu'on l'écoute.
Eh bah oui.
Allons-y.
On bobine.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat.
went to the Apollo. You should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
J'espère que vous avez passé un très bon, un très bon moment.
C'est une ambiance ce morceau.
Très reposant, très... On se balade là.
Ah là là.
Bon, bien qu'il évoque de manière ouverte des sujets sensibles comme la transidentité, la fellation ou la drogue, ce morceau aux accents jazzy a échappé à la censure et a connu un grand succès à la radio, atteignant le top 20 des charts américains et britanniques. Effectivement, c'est une bonne manière de le contourner puisque le morceau en lui-même,
Est tout tranquille quoi.
Oui, enfin, il est tout chill.
Tu t'en doutes pas.
Si tu ne parles pas anglais, tu ne t'en doutes pas. Et effectivement, sur le plan musical, on note la ligne à la contrebasse d'Herbie Flower, qui est un contrebassiste britannique, la guitare folk de Lou Reed, les chœurs féminins et la partie finale au saxophone de Ronnie Ross.
C'est le saxophone dans les morceaux comme ça, là.
C'est quand même fou. Pour l'instant, on n'a fait aucune émission
sans saxophone, je crois.
Alors déjà, et surtout où le saxophone était bof, tu vois, genre à chaque fois ça rajoutait vraiment
normal.
C'est vraiment quelque chose.
Ouais.
Donc un son très british en fin de compte, parce que tous les autres instrumentalistes sont britanniques.
Ouais.
Et fun fact, qui sort un peu de cette époque, mais en fait ce son a été samplé par le groupe de rappeurs et de producteurs originaires du Queens, A Tribe Called Quest.
Ok.
En je ne sais plus quelle année, mais c'était sur le titre Can I Kick It, et c'est un son qui a beaucoup marché, et c'est un son que j'ai surtout connu avant Walk on the Wild Side de Lou Reed. Et du coup, quand j'ai entendu le son base, je me suis dit ah, mais en fait c'est trop bien. Et le son est franchement très bien. Et ce collectif de rappeurs est d'ailleurs très bien aussi. C'est plutôt ils ont emmené le hip hop vers du jazz rap. On appelait ça parce que c'était des samples qu'ils utilisaient très justement issus pas mal du jazz, de la soul, ou des choses beaucoup plus posées que à l'époque où c'était plus de la funk, vraiment au tout début du hip-hop dans les années 90. En tout cas, voilà, sachez que ça existe en version rap, ce morceau.
Incroyable.
Fun fact.
Et voilà. Moi, je vais passer à mon morceau. Et c'est vraiment là, on passe du coq à l'âne.
Ouais, ok.
Parce qu'on était sur un truc un peu tranquille, on va pas se mentir. Mais là, je vais parler de Black Sabbath.
Boom.
Groupe de rock britannique, bien sûr, mondialement connu, hard rock, heavy metal. Voilà. Formé en 68 avec, bien sûr, les quatre membres Tony, Ozzy, Geezer, Bill. Donc, c'est leur petit surnom à tous.
Okay.
Mais en gros, c'est Anthony Iommi, donc à la guitare, bien sûr.
Mm-hmm.
Ozzy Osbourne. John Michael Osborne, bien sûr, de son vrai prénom.
Tout au chant,
le grand taré Ozzy Osbourne, mais il est incroyable. Et c'est comme ça que sa musique est folle, en fait. C'est incroyable. Terence Butler à la basse, bien sûr, donc Geezer. Et William Ward, surnommé Bill, à la batterie. Et on va s'intéresser à un morceau qui est le morceau, on peut dire, de Black Sabbath, le plus connu, je pense.
Classique.
Puisqu'on va faire un petit classique. On va écouter Paranoid, bien sûr, qui est sur leur deuxième album studio, donc sorti, bien sûr, en 70, deux ans après leur formation. Et il est sorti en 71 aux États-Unis, le 1er janvier, pour bien commencer l'année. Un petit Paranoid. Et on va se l'écouter tout de suite.
On rabobine.
I am browning.
Et oui, Paranoid de Black Sabbath, leur plus grand succès commercial, hein, tout simplement sorti en 70. Et enfin, c'est vraiment le groupe de hard rock Black Sabbath, parce qu'il arrive à une époque qui est très intéressante, et on en reparlera bien sûr dans d'autres émissions, mais dans les années 60 jusqu'à 70, il y a des groupes comme les Beatles, les Rolling Stones, et en fait, la fin des Beatles, ça marque surtout
un tournant
pour le rock. Donc par exemple, ça va devenir plus, il y a du rock, le côté rock progressif avec Pink Floyd, Genesis, ou même les groupes comme Yes, et après on va avoir plus le heavy. Donc là l'exemple parfait, bah, c'est Black Sabbath, mais aussi Led Zeppelin, Deep Purple, tout ça. Et mais ce son heavy, c'est grâce au guitariste, mais aussi dans Black Sabbath, grâce à Ozzy Osbourne. Parce que Ozzy, c'est un mec complètement taré, et ça va me permettre de faire. Mais vraiment, si vous vous renseignez sur ce gars, il a fait des folies dans sa vie. Et je vais vous en raconter une petite, mon peuple.
Allez.
Ça se passe en 82, lors d'un concert, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il avait commencé un petit rituel avec le public. C'est que Ozzy aimait bien jeter des trucs dans le public, notamment de la viande crue.
Bon, c'est un rituel comme un autre.
Chacun son délire. Et en fait, le public leur envoyait des trucs parfois.
Ok.
En échange, quoi. Et un jour,
c'est un marché vraiment procédé.
Et un jour, en 82, il y a quelqu'un qui lui jette une chauve-souris sur scène.
Décédé, j'imagine.
Ozzy la récupère.
Ah,
et
il
la met dans sa bouche, il croque dedans, il est fou, oh, il est tout content. Et en fait, d'un coup, ça pisse le sang. Parce qu'en fait, Ozzy croyait que c'était une chauve-souris en plastique. Hein. C'était une vraie chauve-souris.
Elle était décédée, rassure-moi.
Je sais plus si elle était vivante ou décédée.
Bah, déjà, tu peux pas acheter une chauve-souris si elle est pas décédée, je pense.
Ah, on sait jamais. Hein.
Ah, mec, non,
dans
chaud.
Tous les cas, il l'a croqué. Il y avait du sang partout dans sa bouche, et du coup il a dû aller à l'hôpital, et genre tous les soirs il devait se faire piquer contre la rage sur les fesses.
C'est comme ça que le Covid est arrivé, en fait.
Peut-être le Covid, mais vraiment il est complètement taré, mais et du coup on n'a jamais su qui a jeté cette chauve-souris, mais on te salue.
Dédicace à toi.
Mais voilà, ouais, Black Sabbath, c'est tout ce hard rock, ce heavy metal qui a
une vraie
découlé sur plein d'autres groupes comme par exemple Motley Crue. On fera une émission sur eux, qui est un groupe très très bon groupe, et qui est lié plutôt de près avec Ozzy Osbourne. Je vais pouvoir passer à un autre morceau, et là, c'est pas du heavy metal, mais c'est du rock avec beaucoup, beaucoup d'influence, et tout le monde connaît ce groupe. Bien sûr, Police, ou de leur vrai nom, The Police, parce que c'est vrai que souvent on oublie le The.
C'est vrai que, ouais, en fait.
On dit le groupe Police.
Le groupe.
Mais comme les Beatles, c'est The Beatles en vrai. Mais bon, on s'en fout. On dit les Beatles.
Bah oui.
Mais on dit pas le Police ou la.
La Police.
On dit The Police. Mais en gros, Police, bien sûr, groupe de rock britannique avec énormément d'influence. Hein. Ils mélangent vraiment le rock avec du jazz, du punk, du reggae, parce que c'est les influences de ces trois membres. Donc Sting au chant et à la basse, bien sûr, qu'on ne présente plus, qui a fait une énorme carrière solo après. On a aussi Andy Summer à la guitare électrique et le formidable batteur Stuart Copeland, qui sur le morceau qu'on va écouter a fait un travail formidable, et même le guitariste, puisque le riff de ce morceau,
c'est pareil, hein.
c'est quelque chose, hein.
Tout le monde le connaît.
Ah là là. Et moi je propose qu'on l'écoute
tout simplement.
On va écouter Message in a Bottle.
On rembobine.
Love can break your heart.
Jusqu'à 22h sur RCN.
Et c'était Message in a Bottle de The Police, bien sûr.
The Police.
Oui, Police. The Police. Incroyable hein, comme morceau qui, bien sûr, a marqué énormément de gens. On rappelle que Police est classé numéro 70 dans la liste des 100 plus grands artistes et groupes de tous les temps du magazine Rolling Stone.
Oh oui,
non, mais c'est un énorme groupe incroyable. Et qui, ce morceau était sur l'album Ragueta de Blanc, qui est sorti en 79 et qui est leur deuxième album. Donc c'est pas mal. Qui a mélangé bien sûr du rock, du reggae, de la new wave. Ils aiment bien faire ce genre de mélange et ça marche plutôt bien avec ce morceau ou même Walking on the Moon. Plutôt sympa. Bah, t'façon,
j'ai plus le titre en tête, mais on fera une émission sur eux, c'est ça.
Et on vous le rappelle, bien sûr, que les sons sont sur des cassettes.
Oui.
Il faut le rappeler parce que c'est important. Et aussi, à noter que si vous avez. Puisque là, on parle justement de The Police, mais en fait, il faut qu'on fasse des émissions sur plein de groupes, plein d'artistes, évidemment. Et je vous invite à nous envoyer un mail. Ou aller sur ma page Instagram jo-joris pour si vous voulez participer à l'émission hein, s'il y a un artiste qui peut vous plaire ou alors un groupe, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message parce qu'on est là aussi, on parle de musique, on l'a déjà fait, hein, que ce soit
des invités quand c'est
Polnareff. Et donc je vous invite à envoyer un message sur onrembobinersn@gmail.com, donc onrembobinersn tout attaché @gmail.com, et vous pouvez aussi retrouver sur le compte Instagram les playlists. Et oui, parce que les sons, là, pas sur les cassettes, mais on vous a créé de très belles playlists, une Spotify et une YouTube, si vous n'avez pas Spotify, où dedans, il y a toutes les musiques qu'on passe dans cette émission.
Si ça, c'est pas la classe.
Ouais, vraiment.
Vous n'êtes pas obligé de racheter un Walkman ou de débisquer le vôtre qui est enfoui dans votre grenier.
Je te jure. Et petite anecdote pour finir sur The Police, cette musique a été jouée par le groupe au mariage de Sting. Donc à son propre mariage, il a joué ce morceau-là.
Le mégalo un peu en vrai
un
ou pas,
petit peu.
Je sais pas. Un tout petit peu.
On va pouvoir conclure sur un morceau magnifique, Pablo, que tu vas nous présenter, que tu as choisi.
C'est plutôt un joli morceau, effectivement.
Incroyable.
On parle d'un morceau de Stevie Wonder, hein. Déjà, ça donne le ton.
Ouais.
Et ce son, c'est tout simplement Isn't She Lovely. C'est un titre qui est tiré de l'un de son 8e album et l'un de ses plus grands albums, Songs in the Key of Life, qui était sorti en 1976. Les paroles célèbrent la naissance de sa fille, Aisha Morris. Le son ouvre la phase 3 de l'album avec le premier cri d'un bébé enregistré lors de l'accouchement.
Ah là là.
Et c'est un vrai accouchement.
Oui. ça, je l'avais.
Tous les instruments entendus dans la chanson sont joués par Wonder, à l'exception de certaines parties de clavier qui sont jouées par Greg Phillangan. C'est un chanteur et arrangeur américain qui a collaboré par exemple avec Eric Clapton, David Gilmour ou Toto. Voilà.
Voilà, donc, voilà.
Encore une fois, ils sont connectés.
Vraiment.
Au cours du processus d'enregistrement, le bassiste Nathan Watts a établi une ligne de guitare basse pour servir la piste, enfin pour servir de guidage en fait pour Wonder. Mais au final, il a préféré remplacer ça avec sa propre performance de basse au clavier.
Bon, bah, très cool.
Et je vous propose qu'on écoute ça.
Bien sûr, on rembobine.
Isn't She Lovely de Stevie Wonder. Bah voilà, en fait, on passe par un peu toutes les
incroyable
tous
ce
les
morceau.
Moods
non mais vraiment
au cours de
Stevie,
cette compil. Mais
ouais, Stevie, ce génie.
Ce morceau est incroyable. Comme j'en avais pas encore parlé dans cette émission, bah je vais vous le dire maintenant, c'est le moment. Bah c'est mon père
qui, mais non
qui m'a,
oh
qui
la
m'a
vache
initié à ce son. Oh
pas
là là, mon dieu, incroyable.
Ouais, petit running gag, Pablo. Quelle toute la musique qui passe.
Quelle surprise.
C'est souvent lié à son papa.
Ouais, non mais celle-là, vraiment, il y a un mood particulier parce que ouais, je me vois vraiment l'entendre dans ma maison à l'époque quand j'étais tout petit. Elle tournait souvent et en fait, je la connais trop bien pour, ouais, pour le peu de temps que je lui ai accordé volontairement, on va
bah
dire,
oui,
tu
oui,
vois.
Oui.
Mais au final, vraiment, c'est quelque chose de super cool, le solo d'harmonica à la fin, vraiment délicieux.
Vraiment, ouais. Pour remplacer le saxophone pour une fois.
Mais de temps en temps, ça fait pas de mal.
Mais ce morceau, ça nous permet aussi de, mine de rien, rendre un petit hommage.
Carrément.
À un producteur qui aussi a notamment travaillé avec énormément de personnes, mais aussi avec Stevie Wonder.
Carrément. Qui
et donc,
nous
c'est
a quitté,
Quincy Jones qui nous a quitté ce 3 novembre dernier.
C'est ça.
Voilà, donc, bah,
à son homme.
Un grand homme, un grand producteur. Et Quincy Jones, c'est quoi ? Je crois que c'est 28 Grammy. Donc,
ah oui, okay,
c'est une belle c'est carrière beaucoup dans la musique et même en tant que producteur qui ouais a permis.
Accompagner beaucoup d'artistes.
Ouais. Et même récemment, des artistes tout le long de sa vie jusqu'à sa mort.
Carrément.
Donc, voilà.
Donc petit hommage à lui.
C'est ça.
Et bah ouais, et puis pour ce son, bah du coup, forcément, c'était un grand morceau aussi.
Oui.
Il a accompagné donc Stevie Wonder, qui est aussi un grand artiste.
Oui.
On parle de 100 millions d'albums vendus, 25 Grammy Awards, quand même.
Beaucoup.
Juste pour Stevie Wonder, c'est
ouais,
énorme.
Ouais, ouais.
Il a remporté en 1984 un Oscar de la meilleure chanson originale pour I Just Called to Say I Love You. Au cours d'une carrière qui s'étend sur plus d'un demi-siècle et qui aborde de nouveaux genres.
Voilà, voilà.
Il est passé par la funk, le rhythm and blues, la soul ou la pop. Franchement, trop stylé.
Ouais.
De son vrai nom, c'était Steve Land Morris.
Okay.
Il a commencé très tôt dans la musique. Il maîtrisait
oui,
déjà
ouais
le chant, le piano, l'harmonica et les instruments à percussion à 8 ans.
Ouais.
Il a été repéré très tôt du coup avec Ronnie White, qui est un compositeur qui était dans le groupe The Miracle. Ça se dit comme ça ?
Ouais.
The Miracle, aux côtés de Smokey Robinson. Il a signé dans le label Motown.
Ouais. Gros label. Hein.
Gros label.
Vraiment.
Il a signé chez eux à 11 ans.
Ouais. Donc Little
si
Stevie Wonder, c'est un enfant star quoi.
Exactement, il s'appelait Little Stevie Wonder parce que le producteur Clarence Paul lui donne ce surnom après avoir reconnu que nous ne pouvons pas l'appeler indéfiniment la 8e merveille du monde.
Oh, wow.
Franchement, ça va. Quand
ouais
t'as 11 ans, on te dit ça.
Non, mais c'est une très belle carrière, Stevie Wonder.
Ouais, clairement.
Et c'est très cool qu'on finisse sur ça.
Carrément.
Et bah, je te remercie, mon Pablo, pour cette émission toujours aussi incroyable, mon Rembobine.
Merci à toi. J'adore ces moments. J'adore quand on revient sur des sons comme ça. Et j'espère que ça fait plaisir aussi à vous, les auditeurs, d'en apprendre un petit peu
vraiment,
plus.
Vraiment, j'espère aussi que le plaisir est partagé.
Carrément.
Et on se retrouvera, bien sûr, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On vous prépare de belles choses, hein, que ce soit des groupes de rock, on va pas trop en parler, mais aussi des artiste bientôt, surtout un auteur-compositeur français énormément connu, dont les initiales sont JJG, j'en ai trop dit,
oh là là,
mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission
de
On Rembobine. À la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir.